Je voudrais tout d'abord remercier l'intervenant pour cet exposé que j'ai trouvé extrêmement clair et passionnant. Et je ne suis pas philosophe, moi je ne suis qu'une modeste historienne, donc j'étais d'autant plus
Personne
n'est
parfait, vous savez,
voilà.
Vous connaissez la réponse.
Et simplement, consonner tout de suite à ce que vous venez de dire, ça peut être intéressant pour l'ensemble des auditeurs de le savoir. Donc le rapport de Régis Debray s'appelait « Enseigner le fait religieux à l'école laïque, si j'ai bonne mémoire ». Juste deux petits mots pour dire que d'abord, c'est pas lui qui a inventé cette expression, le fait religieux. Il la reprend d'historiens et de sociologues. Et dans les débats de l'époque, un exemple très important était l'ouvrage de Jean Delumeau, Le fait religieux, un ouvrage collectif, enfin dirigé par Jean Delumeau. Et c'est vrai qu'à l'IESR, on a tout de suite eu, plutôt historiens et sociologues, les mêmes réserves que vous venez de faire sur le singulier, et on a privilégié le pluriel. Et je voulais simplement dire que Régis Debray nous avait donné sa bénédiction laïque tout à fait légitime sur cet emploi du pluriel, et que actuellement il me semble que l'éducation nationale, dans ses derniers textes, est en train de passer aussi au pluriel. En tout cas, je trouve que votre démonstration était tout à fait claire et convaincante par rapport à ce qui nous avait motivés.
Merci beaucoup Philippe pour ta présentation que j'ai trouvé moi aussi extrêmement éclairante. J'avais une question un petit peu en forme de difficulté. J'entends bien la distinction des régimes de vérité, hein, entre le régime de la foi et le régime de la vérité scientifique, et de la possibilité pour un individu de tenir finalement deux formes d'engagement à un tenir pour vrai. Mais est-ce que dans ce partage-là, il n'y a pas aussi une certaine porosité malgré tout, c'est-à-dire que personne n'est complètement schizophrène, et qu'il y a bien un passage possible d'un régime de vérité à l'autre, ce qui se traduit par le fait qu'on peut être, positiviste dogmatique, et que ses convictions, scientifiques, enfin convictions scientifiques, c'est un petit peu le terme, mais disons ses connaissances scientifiques viennent avoir un effet sur ses croyances, ou l'étude par exemple de certains philosophes, et inversement. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un certain mode de tenir pour vrai religieux qui, à un moment donné, vient empêcher certains individus d'accepter la légitimité du régime de vérité de la science? Et donc, la distinction, est-ce qu'elle n'est pas très fragile aussi, ou tu dis que ça doit faire l'objet d'une éducation? Est-ce que cette éducation-là ne serait pas précisément très difficile à mener?
Voilà, donc on va écouter une troisième question. Non, c'est pour dire que c'est... Oui, bien sûr, c'est très compliqué. Je suis d'accord avec la difficulté. En tout cas, du côté des personnes, ça, j'entends bien cette porosité. Je sais pas bien si ma réponse est satisfaisante, Anne-Claire, donc je te réponds seulement ce que j'ai dans l'esprit, là, maintenant, et ça sera peut-être pas suffisant. Cette quatrième thèse que je propose... Je pense que c'est une position de l'institution. Je pense que peut-être cette porosité ne devrait pas affecter l'institution elle-même, l'école laïque. Il me semble que on devrait pouvoir tenir en tant qu'enseignant cette position. Après, que pour les élèves eux-mêmes, et même que pour les enseignants en tant que personnes privées, y ait tout un tas de problèmes dans la cohabitation des convictions religieuses possibles et de la rationalité scientifique, alors ça, évidemment, hein, c'est tout à fait évident. Maintenant, est-ce que l'école laïque devrait prendre en charge cette question de la difficulté personnelle d'un élève de concilier ces choses? Je crois que c'est une discussion que nous avons déjà eue il n'y a pas longtemps sur un autre sujet. Et moi, ma position, c'est non. C'est-à-dire que l'école laïque a une position, à mon avis, à tenir. Hein, c'est dire, voilà, le discours scientifique et le discours religieux ne sont pas de la même nature. C'est ce qu'il faut enseigner. Mais est-ce qu'elle doit faire un pas de plus pour montrer une conciliation possible? Je ne crois pas. C'est-à-dire dire si vous avez des problèmes de conscience, voilà, choisissez plutôt la science. Non. Là, il y a la liberté, il y a le respect de la liberté de conscience, et chacun est renvoyé à ses propres solutions. Hein. Et en disant ça, je mesure tout ce qu'a d'insatisfaisant cette dernière phrase. Hein, chacun est renvoyé à ses propres solutions.
un moment dans votre discours, vous avez effectivement abordé la question, la suspicion, on va dire, de l'éducation physique.
Je savais.
Ça m'intéressait de savoir exactement. Parce qu'effectivement, pour moi aussi, ça me pose aussi un problème en tant que formatrice de ramener effectivement la question de l'éducation du corps à cette dimension de citoyenneté de façon systématique. Voilà.
Oui, j'ai pas prévu de réponse organisée à cette question. Je pense qu'il y a un gros risque de se payer de mots là. Voyez, quand on dit par exemple, on apprend les règles d'un jeu collectif, et donc c'est comme si c'est parallèle au fait d'apprendre les règles de la vie en société. On utilise le même mot, mais est-ce que c'est vraiment la même chose? Moi, j'ai un doute par rapport à ça. Le fait de se soumettre aux décisions d'un arbitre en sport collectif, est-ce que c'est transférable sur le fait de se soumettre à l'arbitrage, je sais pas quoi, dans la vie sociale? J'ai aucune conviction là-dessus. Alors évidemment, j'ai aucune conviction aussi que ça ne se passe pas. Hein. Si ça se trouve, il y a des transferts. Mais entre nous, on n'en sait strictement rien. Hein. On n'en sait strictement rien. Jacqueline Costalacou va me démentir, donc tant mieux. Mais moi, je connais pas d'études qui montreraient clairement que des acquisitions sur l'apprentissage des règles ou le respect de l'arbitrage dans les sports collectifs se transfèrent dans la vie sociale. Et pour le dire de façon un petit peu provocatrice, quand on voit l'attitude de certains sportifs de haut niveau, on se dit que ils respectent vraiment très bien les règles de leur jeu collectif, mais quant à respecter les règles de la vie sociale, c'est une autre question. Non, j'en sais rien. Je pense que pour élaborer théoriquement un tout petit peu ça, je pense que cette croyance-là, parce que pour le coup c'est vraiment une croyance à mon avis, est dépendante d'une théorie des facultés qui n'existe plus, qui n'est plus enseignée dans aucun département de psychologie. Vous voyez, une théorie du 19e siècle comme quoi il existerait une faculté, celle d'obéir à des règles, et que cette faculté s'exercerait de la même façon dans le sport et dans la vie sociale. Je trouve ça très suspect. Voilà. D'autant plus que, je reviens quand même sur ce point, ça n'est pas nécessaire pour justifier l'éducation physique et sportive. Le PS est extrêmement important, bien sûr, mais qu'est-ce qui est important, c'est de faire des activités physiques et du sport. Voilà. Mais voyez, je suis d'autant plus passionné que je sens que mon discours est attaquable. Hein. C'est normal, hein, c'est de la rhétorique, ça.
Allez, encore deux. J'aurais pu rebondir à l'instant sur le socle commun des connaissances et des compétences quand même. Parce qu'il y a quand même un présupposé de transfert de compétences d'un domaine à un autre. J'insiste pas. Non, je voulais vous interroger en regard d'une intervention forte pour moi du colloque de 2013, Philippe Borgeau, historien des religions à l'Université de Genève, qui nous a appris, enfin en tout cas à moi, que le concept de religion, c'était quand même un concept créé en Occident, que nos amis les Chinois et Japonais ont dû inventer des équivalents au XXe siècle, et qu'il nous invitait à une archéologie du concept occidental de religion. Alors, la question se pose à vous, mais aussi aux intervenants de ce matin ou de demain, à l'ensemble des intervenants, mais j'en profite d'être presque au milieu du guet pour vous poser la question, puisque vous avez terminé par une réflexion sur le pluriel et le singulier de fait religieux. Est-ce qu'il n'y a pas là... J'étais même navré de voir la citation de Paul Ricoeur, parce qu'il était sur... Allez, deux ou trois monothéismes, là où Philippe Borgeau nous invitait à dépasser même les trois grands monothéismes. Est-ce qu'il n'y a pas quand même, aujourd'hui, en 2016, à élargir considérablement notre réflexion sur les mots religion, faits religieux Bon, je m'arrête là, vous m'avez compris.
Bien sûr, je vois bien la question que vous posez. Imaginez qu'on soit dans une session de formation de professeurs de littérature et que je prenne comme exemple d'enseigner Flaubert, Zola et Lamartine, et quelqu'un me dirait, mais enfin, pourquoi ne pas enseigner Tolstoï, Dostoïevski? Et puis, et en fait, c'est un peu ça la question. Tout à l'heure, je sais pas si mon exemple est éclairant, mais je me débrouille comme je peux pour vous répondre. Tout à l'heure, j'ai dit, il faut enseigner les religions comme on enseigne Molière, Corneille et Racine. Et en classe de quatrième, j'imagine que c'est au programme, on fera pas Molière, Corneille et Racine. On fera Molière ou Corneille ou Racine. Bon, on n'aura pas le temps de tout faire. Donc là, il y a déjà un premier, un premier élément de réponse qui est que de toute façon il faut faire des choix. Hein. Les programmes scolaires sont forcément des programmes sélectifs, inévitablement, et qu'on est confronté à un problème pratique qui est qu'on ne peut pas tout enseigner. Deuxième élément de réponse, dans l'absolu, je suis entièrement d'accord avec vous, il n'y a pas de raison de donner un privilège au catholicisme plutôt qu'au confucianisme, par exemple. Hein. Il n'y a aucune raison de le faire, et donc... on ne le fait pas, mais troisième élément de réponse, donc il y a ces choix à faire. Alors sur la base de quels critères on va les faire? Je pense que les critères sont multiples. On peut changer d'une année sur l'autre. Et après tout, le critère qu'utilise Ricoeur implicitement, qui consiste à insister surtout sur les religions qui sont présentes dans un pays comme le nôtre, est-ce qu'il est vraiment moins bon qu'un autre? J'en sais rien. Oui, il en parle un peu plus loin dans le livre, c'est vrai. Il en parle un peu plus loin dans le livre. Mais vous avez raison, vous avez tout à fait raison. Il cite pas l'islam. Et donc on pourrait compléter ce manque en mettant catholicisme, protestantisme, judaïsme, islam, ça c'est tout à fait juste. Mais après, pourquoi laisser de côté le taoïsme, le bouddhisme, le confucianisme? Il n'y a pas de raison de le faire. Hein, il n'y a pas de raison. Sauf des raisons de construction de programmes, de choix qui doivent inévitablement être faits. Bon, j'ai pas de réponse satisfaisante à votre question en fait. Je m'en excuse. Puisque les deux, choisir les religions plutôt présentes en Europe, ça me paraît pas insensé quand même. Et puis effectivement, pourquoi ne pas donner un enseignement sur n'importe quelle religion? Ça, vous avez tout à fait raison aussi.
Ouais. En tant qu'un petit peu représentant de l'institution, je me sens un petit peu obligé de prendre la parole et de conforter ma collègue représentante de l'EPS qui finalement se dit, mais alors, ce qu'on nous dit, la citoyenneté en EPS, non, il ne faut pas. Je crois que peut-être pour dissiper le malentendu, l'idée d'une prise en compte de la citoyenneté, l'idée actuelle, c'est que ça ne soit plus réservé, justement, à des disciplines particulières. À ce titre, c'est pas en tant qu'EPS qui aurait des compétences spéciales à faire valoir, encore que. Moi, je vous suis pas tout à fait sur cette idée d'apprentissage des règles qui ne serait pas transférable. Bon, mais ça. Mais en tout cas, j'ai envie de dire la question institutionnellement actuellement n'est pas là. Elle est de considérer qu'il faut justement cesser avec l'idée encore grandement partagée que la citoyenneté, ça concerne des disciplines particulières. En l'occurrence, l'histoire-géographie qui enseignait, puisqu'on a changé maintenant, qui enseignait l'éducation civique, juridique et sociale. Et puis, ma foi, les affaires de vie scolaire qui concernaient les conseillers principaux d'éducation, les autres n'étant là que pour enseigner leur spécialité disciplinaire. Quoique l'école change, les questions citoyenneté deviennent absolument fondamentales, on s'en rend compte, on s'en est trop rendu compte, et ça doit devenir une chose vraiment partagée, je crois, à même titre que la citoyenneté, qui n'est pas une spécialité en tant que telle. Deuxième toute petite chose, tout à fait mineure, mais vous avez défini l'État laïque comme n'ayant pas de religion officielle. Ça me gêne un petit peu dans la mesure où il y a eu des États qui n'avaient pas, au moins, j'en connais au moins deux qui n'ont pas eu de religion officielle et dont j'ai du mal à considérer qu'ils soient athées, qu'ils soient, pardon, laïcs, puisqu'il s'agit de deux États qui se sont officiellement déclarés athées. Il y a eu l'URSS et il y a eu l'Albanie. Et à ce titre, voilà, il me semble que la définition de l'État laïque comme n'ayant pas de religion officielle me semble un petit peu insuffisante.
Elle vaut pour l'État français. Voilà. Si ça vous convient, je propose cette restriction. La définition de la laïcité que j'ai donnée, c'est une définition qui prétend valoir pour la laïcité française. Et donc c'est important de dire les choses dans ces termes, parce que ça veut dire quand même que, de mon point de vue, je ne crois pas que la laïcité qui existe en France soit quelque chose d'universel. Je pense que la laïcité française est propre à la République française, et que dans d'autres types d'États, on a d'autres types de laïcité. Voilà. Après la discussion sur la citoyenneté, je sais pas s'il faut l'engager, parce que ça serait... j'aurais beaucoup trop de choses à dire sur cette question. Votre intervention en tant que représentant de l'institution me fait prendre conscience de la position avantageuse qui est la mienne, qui est de ne représenter aucune institution et donc de pouvoir me contenter de dire ce que je crois, c'est-à-dire une conviction profonde que je ne vais pas répéter, qui est que je suis extrêmement sceptique par rapport à ça. Sur la citoyenneté, je pense que le risque, c'est qu'à vouloir la mettre partout, elle ne soit plus nulle part. Je pense que ça, c'est. Je me contenterai de cette formule. Hein, quand on dit que la citoyenneté est partout, il faut se poser la question de savoir où on la trouve. Hein, en réalité, si on cherche bien, on risque d'avoir un peu de mal à la trouver parfois. Voilà.
Voilà, une dernière question. Donc, moi, je suis Laurent Jacquelin, je suis délégué du préfet, mais je ne m'exprime pas au titre de mon institution, là, mais au titre de... Allô ? Vous m'entendez ? Oui, c'est bon ? Voilà. Il se trouve que j'ai suivi donc l'an dernier le diplôme universitaire religion, liberté religieuse et laïcité, et donc j'ai eu l'occasion de faire des allers-retours entre l'université catholique et puis Lyon 3. Donc effectivement, j'ai bien pu saisir voilà la différence d'approche qu'il y avait au niveau de l'enseignement des faits religieux pour le coup. Et ma question c'est la suivante, est-ce que tout compte fait la question principale c'est pas tant savoir ce qu'il y a derrière ce concept de fait religieux, au pluriel, que de savoir ce qu'on va en faire. Parce qu'en clair, donc, moi, ce que j'ai retenu donc, de ce cursus, c'est que l'important, c'était le dialogue. Et pour pouvoir dialoguer, il faut être en capacité de comprendre l'autre. Et cette compréhension, des fois, elle va jusqu'à essayer de comprendre ce qu'est la foi. Alors la foi, on a étudié, nous, les trois grandes religions donc abrahamiques, hein. Donc la foi pour un musulman, c'est pas la foi pour un chrétien, c'est pas la foi donc pour. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc est-ce que c'est pas ça la question principale ? Est-ce que nous on est en capacité donc dans l'éducation, je veux dire laïque, hein, voilà, d'initier un dialogue ou pas à partir de cet enseignement. Sinon, enseigner les faits religieux en tant que connaissance, est-ce que ce sera suffisant pour retisser donc les liens de cohésion sociale, voire sociétale ?
Oui, je vous remercie pour cette question qui me reconduit directement à la troisième thèse. Hein, et le point d'interrogation, c'est vraiment le problème. Je suis tout à fait d'accord avec votre question, hein, comprendre, donc engager un dialogue, ça nous conduit à comprendre l'autre, comprendre ce qu'est la foi, comprendre la religion de l'intérieur, comprendre la spiritualité religieuse, voilà. Moi, je sais pas, je vous suis reconnaissant de cette intervention parce que vous lui donnez du poids et je pense que vous la faites apparaître comme une véritable option, hein. Mais je suis obligé de vous dire que, à mon avis, cette option nous confronte directement au problème de la limite, quoi. C'est-à-dire au-delà de quelle limite ne devons-nous pas aller. Vous voyez ? Comprendre la foi de l'autre, c'est compliqué quand même, hein, de cet objectif. Hein. C'est vraiment compliqué. Oui, alors Françoise me dit qu'il faut que je m'arrête de répondre, c'est ça ? Ça m'arrange parce que je suis embêté pour vous répondre, vous voyez ? Mais c'est vrai que moi j'ai une position plus minimaliste, alors c'est peut-être insatisfaisant de transmettre des connaissances sur les religions, hein ? Ça permet peut-être pas de comprendre l'autre et de comprendre la foi de l'autre, j'en dis pas plus.
Oui, bonjour, moi j'étais très intéressé par votre quatrième thèse que je partage énormément, mais la question qu'elle me pose c'est de quoi les enseignants ont besoin pour la mettre en œuvre, parce qu'il me semble que c'est pas quelque chose avec lequel nombre d'enseignants peuvent être à l'aise. Mmh. Ce qui renvoie peut-être à la question du travail sur l'épistémologie des disciplines, des choses comme ça, et voilà.
D'accord. Merci pour cette dernière. Effectivement, ça renvoie à un travail épistémologique, un travail de recherche certainement, en partie. Je fais un peu de promotion du coup parce que le laboratoire éducation, culture et politique auquel on appartient tous engage un projet de recherche là-dessus, hein, qui s'appelle ROLAM, qui est dans le cas du futur quadriennal, et on aura certainement l'occasion de travailler de ce point de vue-là. Effectivement, il y a une dimension épistémologique, il y a des comparaisons peut-être de textes à faire, des comparaisons sur des régimes de vérité, mais ma réponse est très vague. Je m'en excuse, madame. Heureusement que c'était des petites questions que vous m'avez posées. qu'est-ce que ça aurait été si c'était les grandes questions, hein. Non, être neutre par rapport au fait d'aider un élève à penser par lui-même, non, on n'a pas à être neutre. C'est important de penser par soi-même. Donc là, l'école laïque n'a pas à être neutre. La laïcité, c'est important de rappeler que c'est une façon de se situer par rapport aux religions. Hein. C'est pas une façon de se situer par rapport à d'autres univers de pensée. Hein. Donc, l'école laïque n'est pas tenue à un devoir de neutralité par rapport à l'art, à la littérature, à la philosophie, etc. Il faut au contraire inciter les élèves à réfléchir, là il n'y a aucun... Et par rapport à la civilisation démocratique aussi, alors là encore, malheureusement, il faudrait en parler beaucoup plus longtemps, mais je pense que l'école peut légitimement justifier l'existence des sociétés démocratiques comme étant des sociétés qui sont quand même beaucoup moins pires que d'autres. Hein. Donc là, la neutralité, je ne crois pas qu'elle soit de mise. Par rapport aux religions, c'est différent. La laïcité se définit par rapport aux religions. Hein. Et effectivement, Averroès et Avicenne ont toute leur place dans les programmes de philosophie. Là, il y a vraiment, c'est simplement une particularité historique et culturelle qui fait que on leur a pas fait de place. C'est quand même grâce à eux que, si je me trompe pas, l'héritage de Platon et d'Aristote a été transmis à l'Europe. Hein. Ouais. Voilà.